Oh, bienvenue tout le monde à la troisième saison du podcast Turkinator, les rois du printemps. Je suis content de vous retrouver pour une troisième saison en cette presque mi-mars 2024. Je sais que plusieurs d'entre vous m'avaient écrit au courant des dernières semaines, me demander quand est-ce que j'allais commencer le podcast. Les deux premières saisons, j'ai commencé le podcast début du mois de mars, fin février, début mars. Et pour finir ça, évidemment, autour de la fin mai, cette année, je vais faire des épisodes plus courts, mais je vais m'assurer d'avoir des épisodes plus réguliers. C'est-à-dire que je vais m'assurer que le podcast sort le mardi ou le mercredi, comme j'ai déjà expliqué dans différents épisodes. Ça dépend toujours du timing où ce que je vais me retrouver, si au cours de la saison, si je suis, exemple, je suis en train de faire de la route entre deux états américains, puis j'ai pas le temps de le finir l'enregistrement, peaufiner mes fichiers audio et de mettre ça en ligne. Donc, soyez un petit peu indulgents, même si je vous ai promis que à chaque mardi, il y a un épisode qui va sortir, ben, ça se peut que des fois, ça soit les mercredis, mais je vais essayer d'être plus sur la coche, comme on dit, possible. Sans plus tarder, je vous annonce que cette saison, on va recevoir d'autres invités. J'ai déjà une liste de gens que j'ai contactés puis qui vont être mes invités au fil de la saison. Le format du podcast, juste pour revenir un peu à ce que je disais précédemment, je vais faire des épisodes de 30 à 45 minutes. Je vais essayer de me limiter à ça. La raison est fort simple, le format avec Anchor me top présentement, si je reçois un invité, à des épisodes de 60 minutes maximum. Pourquoi je vais pas jusqu'à 60 minutes? Mais je voulais raccourcir, densifier un peu les épisodes pour mettre un peu plus d'informations. Et quand je vais faire des entrevues, ça se peut que les entrevues se déroulent sur deux semaines. Donc, il va y avoir une portion de l'épisode du podcast qui va être sur de la nouvelle information ou de l'actualité qui s'est passée au courant de la dernière semaine. Et après ça, ben je vais enchaîner avec l'entrevue. Fait que d'une manière assez simple pour garder le tout le plus intéressant possible. Fait que sans plus tarder, je vous présente le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, on va parler de Tom, pas de Tom Brady, pas de Tom Hanks, mais bien de Tom, c'est-à-dire le mâle adulte chez l'espèce du dindon sauvage. C'est quoi un Tom? C'est ni plus ni moins que notre objectif de son vœu de trophée à chaque début de saison de chasse au dindon. Qu'est-ce qui caractérise le Tom par rapport à la femelle et par rapport à son pendant juvénile? Eh bien, évidemment, on a la barbe qui sort du poitrail, quoique certaines femelles en arborent aussi, mais en nombre très limité. Et on a aussi les fameux ergots qui sont à la base de chaque patte et qui, avec les récents événements à Louisville, à lire certains, écoute, le dindon est probablement dans le top 5 des plus grands tueurs d'humains de l'histoire de l'humanité. Écoute, tout ce que j'ai pu lire concernant ça, des fois, ça frôlait l'hystérie. Écoutez, d'emblée, là, les ergots à la base des pattes, hein, évidemment que ça sert comme arme de défense pour les tombes, hein? On va se le dire, c'est sûr que la venue d'un prédateur tentant de s'emparer du Tom va lui donner un coup de patte et des ergots, notamment sur un Tom de 3 ans et plus, vont s'avérer assez longs, pointus et acérés, assez pour infliger des blessures quand même importantes. Un nombre de chiens domestiques l'ont appris à leur dépens que de s'approcher d'un dindon, des fois, ça peut comporter des risques. Nombre de chasseurs qui, croyant à tort que le dindon était en train d'agoniser ou avec tout simplement mort, ont décidé de s'emparer du dindon par les pattes. Grave erreur de débutant. De grâce, ne faites jamais ça. Quand que votre dindon est mort, il est au sol, on attend tout simplement, on s'assure que les derniers spasmes ont eu lieu. Si vous n'êtes pas sûr à 100%, vous voulez prendre le dindon, emparez-vous du dindon par sa tête. Et idéalement en ayant le dos contre vous et non l'inverse. Donc, le mouvement des ailes va faire et ses pattes, il va avoir plus de difficultés à tenter de kicker vers vous si le cas échéant, mais évidemment, les chances que ça arrive sont excessivement minces, donc faut juste utiliser un peu de logique puis un peu de prudence au niveau des ergots quand on vient pour saisir un tom un coup que notre chasse est effectuée. Fait que, ceci étant dit, les ergots vont servir principalement d'armes les le moins fort, là. On peut se dire de protubérance au niveau des pattes pour se défendre versus un prédateur. Les dindons, même quand ils se battent entre eux, deux tomes, et des fois on assiste à des combats assez sanglants entre les deux tomes. Et rarement que les tomes vont utiliser leurs ergots pour se comme on dirait en bon français, pour se kicker, pour se donner des coups de patte. Ça va être quand les dindons vont se battre entre eux, quand deux tomes vont se battre entre eux, c'est généralement à grands coups de bec et on voit les deux têtes qui sont carrément twistées une et les deux coups, c'est-à-dire twistées un par rapport à l'autre. C'est pareil comme si on avait attaché les deux têtes ensemble et on avait tourné les dindons, tout simplement. C'est assez hallucinant de les voir quand ils commencent à se battre. Et c'est vraiment au niveau des becs qu'ils vont vraiment se servir pour s'infliger des blessures. Infliger des blessures, c'est-à-dire à leurs adversaires, en tentant notamment de leur crever les yeux, de leur donner, de leur agripper avec leur bec, de tirer la paupière, de tirer au niveau du pendloc, d'essayer de piquer au niveau de la peau tendre, au niveau des garoncules qui sont à la base du cou. Donc, c'est vraiment de cette façon que deux tomes vont se battre. Et pourquoi que les tomes se battent? Là, présentement, on a des groupes hivernaux qui sont en train de, tranquillement, mais sûrement, qui sont en train de, si vous voulez, de migrer vers leur zone printanière où va avoir lieu l'accouplement. C'est sûr que plus que vous êtes au sud, moins qu'il y a de neige. On peut pas dire que c'est un hiver où on a eu vraiment beaucoup de neige. Donc, la migration, si on veut dire, dans certains cas, est déjà entamée depuis un bout de temps. Faut dire aussi que pour certains secteurs, notamment des secteurs où je chasse en Ontario, les dindons évoluent là pratiquement dans le même secteur, dans les mêmes 2, 3, 4 kilomètres carrés maximum à l'année longue. Donc, ils trouvent du couvert, ils trouvent de la nourriture en bonne quantité, ils ont des perchoirs, sont capables d'évoluer là à l'année longue, ils ont tout ce qu'ils ont besoin pour se sentir en sécurité et évidemment pour se nourrir et se reproduire. Donc, ces secteurs-là vont avoir une présence de dindons qui va être continuelle à l'année longue. Je reviens à ce que je disais précédemment au niveau des tomes. Là, ce qu'on voit présentement, c'est que les groupes hivernaux vont commencer à se séparer. Pendant ces étapes de séparation-là, se passe une étape qui est excessivement importante au niveau des dindons, au niveau des tomes, si je peux dire. C'est l'étape qu'on appelle la hiérarchisation. Ça, essayez pas de dire ça avec une bouchée de chip, là. Ça se dit très mal. Fait que la hiérarchisation des tomes, qu'est-ce que c'est? C'est l'établissement de l'ordre d'accouplement au sein d'un groupe donné, tout simplement. Là, j'en ai peut-être perdu quelques-uns. Qu'est-ce qu'il est en train de raconter là, notre Turkinator national? Ben, c'est pas compliqué, ben, comment ça marche. T'sais, dans l'espèce animale, généralement, c'est le plus fort et le plus dominant qui va accoupler les femelles du secteur en premier. On le voit notamment chez les cervidés, on va le voir dans d'autres espèces et chez les dindons, c'est un peu le même principe. Donc, dans un groupe donné, on prend exemple, on a un groupe, on a six tomes, peut-être avec, genre, on va donner un groupe typique, là, 6 tomes et 10 femelles adultes. Je compte pas les juvéniles, autant les Jake que les Jenny. La Jenny est une femelle juvénile au même titre qu'un Jake qui a pas atteint sa pleine maturité sexuelle. Donc, on a nos tomes d'un côté, on a nos femelles de l'autre, et là, s'établit une hiérarchisation dans toute cette gang-là. Notamment, les tomes vont commencer à se battre entre eux pour déterminer lequel du groupe va être le dominant. Ensuite, il va y avoir le subalterne, le deuxième subalterne, et ainsi de suite. On s'entend que un groupe de 15 tombes, on n'aura pas un classement digne du classement de la Ligue nationale, la 20 séries, avec position 1, 2, 3, puis c'est pas nécessairement comme ça que ça marche, mais on a comme une prévalence, si on veut. On a le dominant, puis après ça, on a une prévalence à un dindon qui va avoir les aptitudes pour devenir le numéro 2, et ainsi de suite, aller jusqu'au dindon le plus faible et le plus chétif du groupe, qui, lui, ben va finir en queue de peloton. Généralement, ça va être composé de tombes de 2 ans, qui... Évidemment, l'an dernier était des Jake et là viennent d'atteindre leur maturité sexuelle, mais ne sont pas en mesure d'établir une certaine dominance et de rentrer dans la hiérarchie. En tout cas, pour le début de la saison, on s'entend. Évidemment qu'à partir du moment que dans le groupe, ils vont disparaître 1, 2, 3 en faveur de la chasse, c'est là que, whoop, on va commencer à voir un changement au niveau de la hiérarchie du groupe. Comment qu'on fait pour reconnaître, tu sais, puis je reviens à ça, puis comment qu'on fait pour reconnaître un tome de 2 ans versus un tome de 3 ans? Puis comment qu'on fait pour établir ça quand vous allez commencer vos observations? D'ailleurs, je sais pas si vous avez commencé, mais je sais que plusieurs m'ont envoyé des vidéos, des photos de leur prospection. Fait que y en a pour qui ils s'en regardent bien, il y en a moins bien pis tout. Mais je vous dirais, dans l'ensemble, je fais un petit aparté. Je m'attends à ce que, statistiquement parlant, qu'on ait une très bonne saison. La raison est fort simple, le taux de mortalité hivernale a dû être relativement bas dans la majorité des secteurs au Québec dû à l'hiver très clément qu'on a eu. Donc, je ferme la parenthèse, je reviens à mes tomes. OK. Dans l'évolution du tome, on commence, on a un poussin. Après ça, tu sais, de 0 à pratiquement 1 an et demi, on a ce qu'on appelle, tu sais, le poussin qui devient un Jake, qui est un mâle juvénile. Le Jake va avoir une queue qui va être incomplète. Il va avoir notamment les plumes centrales qui vont être plus longues, ou dans quelques rares occasions, j'ai vu ça parce que les plumes centrales étaient vraiment plus courtes et c'était les plumes de chaque côté de la queue, c'est-à-dire les plumes primaires, les principales plumes, qui, elles, étaient pleines de longueur. Donc, mais je vous dirais qu'à 95% du temps, c'est les plumes centrales de la queue qui vont être pleines de longueur et les plumes de chacun côté de la queue vont être légèrement plus courtes. Au niveau des ergots, on n'a pratiquement pas d'ergots, si ce n'est que des petits boutons, hein, un petit bout, un demi M&M ou un demi Skittles, tout dépendant de votre préférence, genre sur la patte, on parle de quelques millimètres de longueur à peine, c'est rond, il n'y a aucune forme de pointe là-dedans. Donc, c'est ce qu'on retrouve au niveau des ergots pour un Jake. Et en ce qui a trait à la barbe, ça va être une barbe qui, tout dépendant à quel moment de l'année, tu sais, si c'est un Jake de première portée qui est né quand même assez tôt, des fois on peut se rendre à une barbe jusque 4, 5, en rares occasions jusqu'à même 6 pouces de longueur. Je l'ai déjà vu sur un Jake. Et des Jakes des portées un peu plus tard, on va tout simplement avoir une petite barbe qui va être environ de 3/4, même des fois d'un demi à 1 pouce de long. Ça fait que ça, c'est pour notre Jake, tu sais, qui est pas encore à pleine maturité sexuelle. Quand on arrive à un tome de 2 ans, et là, on a un tome qui va rebarrer des ergots d'autour d'un demi-pouce, plus ou moins, hein, plus ou moins à peu près 1/8 de pouce, des petits ergots qui commencent à pointer tranquillement. Une barbe qui généralement va avoisiner les 7, 8, rarement on va atteindre le 9 pouces, mais ça peut arriver, avec un poids qui peut atteindre les 20 livres, mais qui va généralement se situer dans les 18, 19 livres. Je reviens au Jake. Pour le poids, un poids d'un Jake va se situer autour de 15 à 17 livres. Bon. On arrive à notre tome de 3 ans. Un tome de 3 ans, comment faire pour reconnaître un tome de 3 ans? Et encore là, c'est des généralités. Hein? Il y a de la génétique qui rentre en ligne de compte. Il y a certaines formes de maladies qui vont aussi nuire à la croissance des ergots ou ben non de la barbe, tu sais, qui vont faire que le dindon, évidemment, si le dindon il est pas en parfaite santé, donc c'est certains de ses attributs atteindront pas la croissance voulue en fonction de l'âge. Fait quand on arrive à un homme de 3 ans, on va avoir une barbe généralement qui va être un peu plus longue que le 9 pouces. Et évidemment qu'au Québec, un des problèmes qu'on a au Québec, c'est au niveau de la neige, au niveau de la glace, de la slotch, qui va s'accumuler dans les poils de barbe. Et tu sais, quand on prend ça une barbe de dindon, on se rend compte que les poils sont très cassants. Donc, ce que ça fait, c'est que nos dindons, généralement, n'auront pas des très, très longues barbes, genre de barbe qu'on va voir, tu sais, dans notamment certains États du Midwest américain, notamment le Missouri, où ce que il y a des dindons qui sont enregistrés, qui proviennent de là-bas, qui ont des barbes de 12, 14, 15 pouces de long, ce qui est assez phénoménal. Ce qui peut arriver ici, tu sais, il y a toujours des exceptions, mais faut juste, tu sais, prendre en compte qu'on a un facteur limitatif qui s'appelle notamment notre hiver. Donc, on revient au niveau de la barbe. Les ergots vont... Au niveau de la barbe et des ergots, excusez. Et les ergots vont avoir généralement plus d'un pouce. Et là, encore là, s'il n'y a rien qui limite la croissance, on a un dindon qui est en santé, on va avoir des ergots, tu sais. Puis là, ça peut varier. Après ça, en termes de longueur, mais généralement, c'est autour d'un pouce. Après ça, on arrive dans des tomes de 4 ans, des tomes de 5 ans. Donc, au niveau de la barbe, tu sais, si, comme je le disais précédemment, avec le facteur limitatif de l'hiver, c'est sûr que la barbe, à un moment donné, je vous dirais qu'au Québec, là, quand on atteint du 11 pouces, là, puis en rare occasion, j'ai vu du 12 pouces, on a une très bonne longueur de barbe. C'est tout qu'un pinceau qu'on vient de récolter, là. C'est quand même impressionnant. Après ça, au niveau des ergots, quand on passe le pouce et demi, là, on arrive dans le 4 ans, dans le 5 ans, un pouce, là, même je vais dire, tu sais, un pouce et 3/16, un pouce et demi. J'ai tué au Québec en deux occasions, un pouce et 3/4 au niveau des ergots. Des vieux tomes rusés, c'est rare, mais ça arrive. Là, on arrive dans ce qu'on qualifie de tomes dominants. Tu sais, c'est vraiment quand on arrive dans cette catégorie de tomes là, c'est vraiment là qu'on se rend compte que on a affaire à des trophées. Tu sais, comme je l'avais déjà expliqué pour ceux qui ont participé l'année passée à Coupe Turkinator, qui d'ailleurs, je vais l'annoncer pas tout de suite, mais je vous donne un petit hint que il y aura une Coupe Turkinator 2024. Envoyez-moi pas tout de suite vos paiements. Attendez, je vais sortir les détails des prochaines semaines, mais je vais faire la grande annonce aussi. C'était juste un petit scoop entre nous autres. Fait que tout ça pour dire que quand on arrive dans cette catégorie de tomes-là, généralement, on a affaire à un tome qui est dominant. Fait que si vous récoltez un tome dont les ergots passent ou ballons sont autour d'un pouce et demi, on a un tome avec un poids au-dessus de 20 livres. Évidemment, plus que la saison va avancer, plus que notre tome va maigrir un peu, là, parce que lui, il courroille, il se nourrit moins, se nourrir, c'est secondaire. Dans son cas, c'est sûr que il va se nourrir, mais pas autant qu'il le ferait d'habitude. Donc, un dindon qui peut peser peut-être un 23 livres et demi en début de saison va peut-être en peser 21 et demi, 22 vers la fin de saison et peut-être moins. T'sais. Mais quand on a un dindon dont la barbe dépasse le 10 pouces, dont les ergots dépassent ou sont autour d'un pouce et demi avec un poids supérieur à 22 livres, on a affaire à tout qu'un trophée et probablement le dominant de la place. T'sais. Comment que, à partir du moment que les dindons se battent entre eux, comment que la hiérarchie fonctionne après ça pour l'accouplement? C'est relativement simple et complexe à la fois. C'est simple parce que le dindon qui va avoir remporté ses combats puis qui va avoir assuré sa dominance envers les autres tomes, c'est lui qui va s'accoupler en premier. Et on sait, je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres épisodes, que le début de notre saison de chasse est instauré en fonction de s'assurer qu'il y ait au moins 50% des femelles qui soient accouplées. Donc, on veut s'assurer une pérennité de l'espèce. Et on veut s'assurer que cet homme-là, entre autres, t'sais, ne soit pas dérangé par des facteurs extérieurs, notamment nous, les chasseurs. Donc, on veut lui laisser le temps, comme on dit en bon québécois, de faire sa job. Fait que là, il l'a fait, tout le kit. Arrive hein, le 26 avril au matin. Vous êtes assis dans votre érablière, dans votre forêt mix, sur le bord de votre prairie. Et vous réussissez à récolter ce tonzi-là, un tome incroyable. Comme je disais, qu'il y a des beaux attributs physiques, il y a tout ce que vous voulez, des beaux ergots, belle barbe, tout le kit. Bon, c'est fait, prenez photo, vous arrivez chez vous, vous débitez votre dindon, vous êtes content, tu sais. Bon, on sait comment ça fonctionne. Qu'est-ce qui se passe dans le groupe? Les autres tomes, eux autres, comment vont rétablir la hiérarchie? Est-ce que le numéro 2 reste numéro 2 automatiquement? Mais non. Va s'en suivre une autre étape de hiérarchisation, moins longue et moins, si vous voulez, intensive que en ce moment et, tu sais, la fin de l'hiver, début du printemps, là, on peut voir, là, on voit que les dindons paradent déjà un peu partout, les combats ont déjà commencé dans certains secteurs, on est direct dans le pic de ça. Là, c'est sûr que là, ça va être moins intense, mais ce que ça va faire, c'est que pendant des fois 2, 3, allez, même jusqu'à 4 jours que ça peut prendre avant que le groupe, tu sais, par les combats, par la hiérarchisation, c'est la première fois que je dis ce mot-là, je suis quand même bon, je me suis pas enfargé une fois, va réussir à, bon, on a trouvé c'est qui notre numéro 2, c'est lui qui va recommencer à coupler les femelles. Évidemment, un tome pour attirer les femelles, ça doit être beau. Donc, il y a un autre facteur aussi. T'sais, avant de rentrer puis de commencer à se battre entre eux autres, vont montrer une belle posture de combat, tentent de se faire plus gros, ouvrent leurs ailes. On a la position qu'on appelle half-strut, où je peux la traduire, dire en demi-parade. Donc, on a la queue ouverte, pas au complet, juste ouverte, les ailes par en bas. Là, on a un dindon qui démontre une posture de combat qui est prête à faire face à son adversaire. T'sais. Et après ça, un coup bon, qui a gagné son combat, tout, et lui, il faut qu'il soit attirant aux yeux des femelles aussi. Fait que, une des choses qui rend les dindons et les tomes attirants aux yeux des femelles est la fameuse iridescence des plumes. D'où provient cette iridescence des plumes-là? Elle provient de petits cristaux qui sont logés au travers des petites fibres. Tu sais, quand on regarde une plume, là, il y a souvent des petites fibres, il y a des petites portions de plumes. C'est comme s'il y avait un paquet de mini plumes, tu sais, de mini petits filaments de plumes qui sont toutes joints un à l'autre, et l'iridescence, ces petits cristaux-là, proviennent de la base des plumes des dindons et viennent se loger là-dedans. Donc, un dindon qui a un beau plumage, qui a une belle iridescence, va être beaucoup plus attirant aux yeux des femelles pour l'accouplement qu'un dindon qui va démontrer, tu sais, certains torts génétiques ou certaines maladies. Souvent, ces dindons-là, évidemment, quand c'est le processus de déterminer qui s'accouple en premier versus le 2, 3, 4, 5, whatever, eux autres vont être en queue de peloton. Donc, généralement, ces hommes-là vivent un peu des fois à l'écart du groupe, ne se mêlent pas, où on les voit, sont à la remorque du groupe. T'sais, on voit le dominant parade, le subalterne va parader, mais un petit peu plus loin des femelles. Et on voit un autre homme qui, lui, je ne veux pas dire nécessairement qu'il n'est pas en santé, mais généralement, c'est un comportement qui trahit ça un peu, là, qui va être un peu à l'écart du groupe puis qui paradera pas trop. Ou on le voit pendant qu'on voit les groupes ensemble, pendant la saison de chasse, pendant l'accouplement. On a un tout seul par rapport. Finalement, boum, on tire cet homme-là, puis on se rend compte que, hop, il y avait soit une maladie, tu sais, ils ont souvent des maladies au niveau de la tête, qui font un genre de gale, tout le kit, c'est un genre d'infection par un parasite qui va rendre ça, tu sais, bon, on voit que le dindon, probablement, il y avait ça, où on se rend compte, oups, au niveau des pattes, ça m'est arrivé régulièrement de tuer des tomes qui avaient tout simplement pas d'ergo. Donc, certaines maladies ou ben non, il y a une patte, au niveau des doigts, il y a un doigt qui a une malformation, ainsi de suite, ou c'est un dindon qui peut être blessé, tu sais. Je veux pas faire la nomenclature de tout ce qui ferait qu'un dindon est pas vraiment attirant aux yeux d'une femelle, mais faut prendre en compte, en considération que tous ces facteurs-là vont être déterminants au niveau de la hiérarchisation entre eux. Fait que je reviens à notre Tom qui meurt. Là, on a un deuxième qui le remplace. Mais saviez-vous que à chaque fois qu'on tire un Tom dans un groupe, les autres ont plus de chances de mourir? Exemple, vous êtes deux à chasser sur une terre. On revient à mon exemple, qu'il y a 6 dindons. Vous vous dites, bon, généralement, autour du tiers est toujours une bonne règle. Le tiers de mâle, il y a 6 tomes, puis mettons, il y avait 4 Jake. Donc, on s'entend qu'il y a 10 mâles autour. Ces 4 Jake-là vont être des tomes, s'ils survivent évidemment aux prédateurs et à l'hiver, vont être des tomes l'année prochaine. Donc, pour continuer à maintenir un bon niveau de population avec une croissance somme toute contrôlée, on prélève, pas plus que, je vous dirais, pas plus que 3 spécimens. Fait que dans ce cas-là, on peut prélever jusqu'à 3 tomes. À chaque fois que vous allez prélever un tome dans votre secteur, la chance et la probabilité que les autres tomes meurent augmentent. Là, vous allez me dire, qu'est-ce que tu dis là, Tardif? Qu'est-ce que tu radotes là? Ouais, j'écoutais justement Mike Chamberlain, qui est un gourou, c'est un biologiste, gourou du dindon aux États-Unis. Je l'écoutais dans un autre podcast expliquer sa théorie, puis ça m'a vraiment frappé parce que c'était vraiment intéressant, puis c'est surtout empreinte beaucoup de logique. Ce que les biologistes ont observé, c'est quand on tue un tome dans un secteur, évidemment, pour rétablir la hiérarchie entre eux, leur comportement va changer. Quand je dis changer, c'est-à-dire que là, ils vont avoir tendance à prendre un peu plus de risques, à vouloir se déplacer un peu plus, à tenter de se rapprocher des femelles un peu plus, de sortir un peu de leur climat. Je recommence. De sortir un peu de leur état d'esprit qui est en constante méfiance. Donc, leur niveau de méfiance baisse légèrement. En baissant légèrement, évidemment, face aux prédateurs, que ce soit nous ou leurs prédateurs naturels qui sont dans la forêt, qui vivent avec eux autres, peu importe, là, coyotes, lynx ou whatever, deviennent moins méfiants. Parce que, bon, leur attention devient capitalisée par leur besoin de s'accoupler et l'urgence de s'accoupler parce que là, eux, contrairement au mâle dominant, qui, lui, a eu 2-3 semaines au début du mois d'avril pour commencer sa besogne sans être dérangé. Évidemment, les prédateurs naturels vont toujours exister, mais quand même, c'est sûr que l'impact des chasseurs à partir de la fin avril est vraiment très, très, très significative. Donc, nos dindons, changeant d'habitude, se retrouvent à prendre plus de risques, donc leur chance de mourir s'élève. Et si on tue le premier, les chances de mourir du reste des autres dindons augmentent. On tue le deuxième, les chances augmentent encore. Ils ne sont pas encore capables de quantifier le pourcentage. Je ne peux pas vous dire que un coup qu'on a tué un dindon dans un groupe de 6, les autres ont toutes 5% plus de chances de mourir. Après ça, si on en tue un deuxième, là, c'était 5% plus un autre 7%. Ils ne peuvent pas vraiment le quantifier. C'est selon toutes les observations qu'ils ont faites sur le terrain. Fait que c'est vraiment intéressant de comprendre l'interaction entre les tomes entre eux et comment que ça fonctionne et comment que ça fonctionne présentement aussi en ce moment. Donc, c'est clair que l'impact que la chasse a est vraiment important au niveau de l'accouplement du dindon. Une chance que notre saison commence quand il y a beaucoup de femelles qui sont déjà accouplées, et même, vous m'avez déjà entendu le dire, puis même probablement l'avez déjà lu sur ma page ou le groupe Turkinator, tu sais, j'aimerais ça qu'on commence même un petit peu plus tard. Pour moi, la chasse aux dindons au Québec, ça devrait être au mois de mai. Le mois de mai, on ouvre ça, les zones plus au sud, puisqu'il y a plus de dindons, on ouvre ça du 1er au 31 mai, tout simplement. Est-ce que notre taux de succès en changerait? Probablement, vraiment. Écoute, des pinottes, je pense pas. Même au contraire, je pense qu'à la fin mai, on aurait beaucoup de succès quand même, comme ça se passe présentement en Ontario. À chaque fois qu'on va en Ontario, à la fin mai, on fait des belles chasses, on tue des très beaux dindons aussi. T'sais. Parce que c'est pas tous les dindons dominants qu'on va récolter en chasse. Il y en a beaucoup qui survivent puis qui passent au travers de nos mailles, des filets qu'on a tendus. Fait que faut prendre ça en considération aussi. Fait que, ceci étant dit, j'espère que cet épisode-là est intéressant pour vous. On a parlé des tomes, puis écoutez, on va en parler encore. On va parler encore de plusieurs situations, puis toutes sortes de trucs et techniques de chasse au fil de la saison. Comme je vous l'ai dit, on va recevoir une panoplie d'invités, ça va être très intéressant. Fait que, lâchez pas tout le monde. Il nous reste 5 semaines avant l'ouverture de la saison. J'espère que vous avez pratiqué vos calls, que vous avez commencé à prospecter. Là, il n'y a pratiquement pas de neige nulle part. C'est parfait pour aller patronner. N'hésitez pas à patronner si vous n'êtes pas sûr, si vous avez manqué des dindons l'année passée. Allez tirer, apprenez à connaître vos armes et comme ça, ben, on s'assure d'en manquer le moins possible ou de ne pas en manquer. Fait que sur ça, attention aux autres. Et bonne semaine. Et en terminant, n'oubliez pas, samedi prochain, le 23 mars, au bistrot Le Rossignol à Laval, de 10h à 3h, je donne une bonne formation, une excellente formation même. Si vous êtes intéressé de vous joindre à nous, on est déjà plus d'une 60aine de participants. J'ai encore de la place. Si vous posez la question, savoir si j'ai de la place, j'ai encore de la place. Là, au coût de 79$, venez voir sur ma page Steve Turkinator Tardif ou sur le groupe Les Turkinators si vous avez besoin de renseignements supplémentaires. Venez m'écrire, mais n'hésitez pas. Moi, je vais prendre des noms à aller jusqu'à jeudi. Il me reste encore une 20aine de places. J'avais loué quand même une salle d'une bonne taille. Je voulais qu'on ait de l'espace pour tout le kit. Fait que j'ai la possibilité de rentrer encore une 20aine de personnes. Fait que n'hésitez pas si vous pensez venir à essayer de faire ça le plus vite possible. Et ça va être la dernière formation que je vais donner de la saison. Peut-être je suis en train de regarder pour quelque chose mois d'avril pour une journée de patronage. C'est-à-dire ça va être une journée où on va jaser de dindon, mais on va patronner nos fusils. Et je suis en train de regarder ça tranquillement. Fait que sur ce, portez-vous bien. Attention à vous, je suis très content de vous retrouver et j'ai hâte, moi aussi, dans 5 semaines. Dans mon cas, ça commence dans 3 semaines dans le sud-est des États-Unis, mes états fétiches où ce que les dindons se transforment en fantômes par moment. Donc, attention à vous autres, on s'en jase.
Si vous cherchez des appos de qualité, fabriqués par un artisan québécois, entièrement conçus et développés ici, je vous conseille les appos de conception Claude Piette. Des appos qui répondront à vos besoins et qui feront les sons auxquels vous vous attendez.